Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme pour le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles et aujourd'hui le thème, mon enfant ne mange rien. Oui, c'est un sujet qui va parler à beaucoup de parents, c'est évidemment très angoissant, mais il y a des astuces, des solutions, bien sûr, on peut sortir de ce qui est quand même un enfer, on va pas se mentir. Donc on va entendre Mélanie qui est la maman d'Héloïse, et puis nous serons avec une psy qui nous donnera des conseils, Alexia Chaland-Belval, c'est parti.
J'aime pas, c'est pas bon, je veux des pâtes, j'ai pas faim, laisse-moi tranquille. Tous les parents entendent un jour leur enfant râler contre le plat qu'on leur présente, mais dans certaines familles, quand les enfants ne mangent rien ou presque, les repas tournent rapidement à l'affrontement, évidemment, des moments de tension. Bonjour Mélanie.
Bonjour Benjamin.
On est tous ensemble, on vit tous la même histoire. Merci d'être la porte-parole de nombreux de nos téléspectateurs, j'en suis sûr aujourd'hui. Cette angoisse, vous la vivez avec votre fille, Héloïse, votre petite dernière, qui a 3 ans et qui a 3 ans et demi quasiment. Depuis sa naissance, les repas sont galères, pour le dire simplement. Pourtant, vos aînés, qui s'appellent Gabriel et Alban, eux, ont toujours mangé de tout. Ça n'a jamais en tout cas été un sujet. Vous êtes venus ici pour partager votre détresse et trouver des solutions, et je l'ai dit, pour aider un maximum de personnes, donc merci d'être là. Alors Héloïse, je l'ai dit, c'est donc votre troisième enfant. Ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'elle est née très prématurée, avec 1 mois et demi d'avance. Évidemment, on peut imaginer que ça a conditionné ses premiers pas, ses premières relations avec la nourriture.
Oui, parce qu'Héloïse, quand elle est née, elle ne respirait pas très bien et elle ne s'alimentait pas toute seule. Donc elle a eu ce qu'on appelle une sonde nasogastrique. Donc elle était, en fait, elle était nourrie en continu et ça ne permet pas au bébé de ressentir la faim. Développe pas vraiment de réflexe de faim. Donc voilà, elle avait cette sonde pendant 15 jours en néonat.
Ouais. Voilà. Donc non seulement elle développe pas, comme vous dites, la faim, mais en plus c'est assez intrusif,
ouais,
évidemment.
Tout à fait, c'est invasif. Ouais.
Donc elle a commencé avec 15 jours, bon, très compliqué. Si on avance un tout petit peu, la diversification, du coup, comment ça s'est passé?
Alors on a commencé à 6 mois, bon, en âge corrigé, ça fait 4 mois et demi environ. On a été très prudents, parce que sa sœur avait quand même un antécédent d'allergie alimentaire, qui s'est très bien réglé, mais voilà, on a été prudents et on a introduit les aliments vraiment...
Donc, protéines de lait de vache, hein, c'est ça?
C'est ça, ouais. Et gluten, les deux, c'était compliqué. Donc on a introduit vraiment les aliments de manière très espacée et tout de suite on s'est rendu compte que ce serait compliqué. Elle avait très très peu d'intérêt pour les aliments nouveaux, pour l'alimentation. Elle ouvrait pas la bouche en fait quand on lui proposait la cuillère, la purée. Il n'y avait pas de cris, pas de larmes, mais...
Ça ne l'intéressait pas.
Ça ne l'intéressait pas, ouais.
Même les compotes de pommes, les compotes de poires...
Alors, tout de suite, ça a été un petit peu plus facile avec le sucré, ça, je pense, comme pour beaucoup d'enfants. Mais, voilà, elle prenait 2-3 cuillères et puis elle était comme rassasiée et ça suffisait, en fait.
Okay,
elle ne réclamait pas.
Pas d'intérêt. Alors, on avance un petit peu. Vers 9-10 mois, vous introduisez les morceaux.
Oui, alors là, catastrophique.
Oh. Oui, c'est vrai.
Là, ça a vraiment été gênant pour elle. Les morceaux, elle refusait systématiquement. Et même en mélangeant les textures, là, c'était encore pire. Dès qu'on mélangeait de la purée lisse avec des morceaux, là, vraiment, elle refusait en bloc. Elle ne mâchait pas. Même quand elle a eu ses premières dents, elle ne voulait pas.
Donc, bon, bah là, ça devient quand même une petite source d'inquiétude chez vous.
Oui.
Vous allez voir un médecin?
Alors, on était suivis par une pédiatre. C'est vrai qu'assez tôt, la pédiatre nous a dit que ça pouvait être normal avec le gavage par la sonde nasogastrique. En tout cas, que ça pouvait être normal qu'il n'y ait pas vraiment d'intérêt pour la nourriture et pas de faim. Et puis, elle a évoqué déjà la potentialité d'un trouble de l'oralité. Ouais. Tout de suite, mais en disant que voilà, on se laissait le temps et qu'il fallait surtout voir comment ça évoluait.
Là, du coup, vous êtes allé un petit peu au plus simple. L'idée, c'était quand même de la nourrir. Donc, ouais. En gros, compote, vous lui donniez
En gros, là, pendant 2 ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait qu'elle grossisse, on voulait qu'elle prenne du poids. Il n'y avait rien d'alarmant, mais du coup, on donnait ce qu'elle mangeait, c'est-à-dire essentiellement du sucré, des compotes, donc du lisse. Et des petits gâteaux mous du type Madeleine, vraiment des choses qui se mâchent très facilement. Et ça, pour le coup, elle pouvait se rassasier complètement en mangeant que ça.
Mais vous me disiez aussi des petites knackis, des gnocchis et des choux-fleurs.
Bah, les gnocchis, c'est mou.
Ouais, c'est ça.
Donc ça passe bien.
Choux-fleurs, au moins, il y a un légume.
Choux-fleurs, oui, c'est un légume. Alors, je ne me l'explique pas.
Non, moi non plus. Hein,
alors, il y a des choses, oui, c'est un petit peu flou parce qu'il y a des aliments, on pourrait se dire spontanément, les enfants n'aiment pas. Elle va accepter d'en manger un petit peu. On n'a pas vraiment de repères par rapport à ce qu'elle aime ou pas. Hein. Ouais. Ça, c'est un peu compliqué.
Bon, alors donc, il y avait bon, ce minimum pour au moins la nourrir, ouais. normalement. Mais les repas, c'est évidemment des moments de, bah, de grande tension.
Ouais. Ouais, c'est des moments de tension. Alors, d'autant qu'on est on n'est pas tout à fait sur la même ligne avec mon mari. Donc, ouais, lui, il est très, très angoissé qu'elle ne se nourrisse pas. C'est vraiment essentiel pour elle qu'elle ait le ventre plein. Donc, il est capable de dire, bah non, on va lui donner 4-5 compotes si elle veut 4-5 compotes. Mmh. Moi, c'est plus compliqué. Je vais plutôt dire, bah non, si elle ne mange pas, c'est qu'elle n'a pas faim et elle va manger au repas suivant. Mmh. Donc, il y a des tensions entre nous. Et ça, ça se répercute forcément...
Et qui gagnait alors? C'était plutôt les 5 compotes ou
ouais,
c'était plutôt vous?
Plutôt les 5 compotes. Les 5 compotes. Je finis par, bah, par lâcher un petit peu. Puis le soir, on est fatigué, on n'a oui, pas oui. envie de se battre. Oui, ouais, souvent, c'est les 5 compotes.
Après la journée de boulot, après c'est les 2 autres enfants aussi.
Et puis bon, oui, c'est... on est 5 à table. Donc,
Et bah, justement, à table, vous appréhendiez du coup le ouais. moment du repas?
Parfois, moi, j'arrive, je rentre du travail et je dis à mon mari, non, mais ce soir, c'est toi qui gères. Moi, je n'ai pas l'énergie. Et puis le soir où lui, il me dit, non, mais je ne vais pas y arriver non plus. Ouais. Et puis, on a les autres qui arrivent aussi, et les autres enfants qui sont là avec leurs besoins, qu'il faut écouter.
Concrètement, vous faisiez quoi? Vous faisiez l'avion, racontez une histoire, ouais, parler d'autres choses
et... Mon mari est plus inventif que moi, ouais. mais on a tout fait. On a fait une cuillère pour maman, une cuillère pour papa.
Ça, ça marche pas, ça. C'est dans les films que ça marche. Trop...
Alors, non, ça, ça marche pas tellement. Ouais. On a fait l'avion. Nous, c'est Star Wars à la maison.
C'est vrai?
C'est Yoda qui rentre dans la base.
on a tu fais fait les phrases à l'envers et tout.
Ouais,
repas,
ça,
tu vas manger ça. Pour forme être en. Ouais.
C'est ça, mon mari, il est plein de ressources là-dessus. C'est le chantage. C'est si tu finis 2 bouchées de plus, je vais te donner un truc que t'aimes à la fin du repas. Donc c'est vraiment, on y passe un temps fou.
Et ça a marché?
Ben, ça marche pas tellement parce qu'en fait, la réalité c'est qu'Héloïse, elle est très, vraiment très peu intéressée par la nourriture. Donc ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'elle sort de table en fait.
Okay.
Elle exprime que ça l'intéresse pas et puis elle quitte le repas.
Et vous n'aviez pas forcément de prise sur elle à ce moment-là. Donc, il y a un peu la méthode douce, Star Wars, tout ça, ça c'est très sympa. Et vous avez essayé aussi des astuces un petit peu plus radicales, notamment pour faire en sorte qu'elle ait faim au moment de passer à table.
Oui, alors on a supprimé le biberon de lait du goûter, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ça la remplissait beaucoup et qu'après, arriver à table, déjà qu'elle n'a pas beaucoup faim, voilà. Donc, on a supprimé ça. On a...
caché les aliments.
Ouais.
Et ça, je crois que c'est, ça marche pas trop. Ça,
on arrive vraiment... on n'arrive pas à les cacher complètement. Elle est maligne. Donc, si elle voit que c'est pas tout à fait ce à quoi elle s'attend, ça passe pas.
Il faut qu'on parle des grands frères et sœurs. Ouais. Gabriel qui a 14 ans, Alban qui a 7 ans. Ouais. Eux, donc, ils mangent et ils comprennent pas trop ce qui se passe. Comment ils réagissent? Parce que du coup, le moment du repas n'est pas un grand moment de plaisir pour eux non plus.
Non, tout à fait. Alors, à la semaine, Gabriel, il est en internat. Donc, il est pas avec nous. On le voit le week-end. Alban, c'est très compliqué pour elle parce qu'elle a vraiment besoin d'attention le soir, de pouvoir raconter sa journée. Et en fait, on est complètement parasité par l'attention qu'on porte à Héloïse. Donc, elle n'a pas d'espace pour elle. Donc, c'est compliqué. Ça peut finir en crise de son côté. Pour ce qui est de Gabrielle...
Oui, puis 7 ans, elle est encore petite.
Ouais.
C'est
ça.
Elle n'est pas encore ado. Quoi. Et Gabrielle, en revanche, quand il rentre de l'internat, il doit dire qu'il se passe ici.
Bah, Gabrielle, il est ado, donc c'est un peu différent. Il est très proche de sa sœur, donc il peut prendre le relais. Il va essayer de la faire manger en disant « Allez, c'est pour grand frère ». Après, il a un regard un peu critique par rapport à notre manière de faire parce qu'il nous dit « Vous n'avez pas fait comme ça avec moi, vous avez été très strict ». Et c'est vrai que, de fait, c'est un enfant qui mange absolument de tout.
Ah, il verra quand il sera parent, Gabriel. Oui. Hein, c'est pas trop ton malin.
C'est ça, on lui rappellera.
Elle est rentrée en maternelle donc, en septembre dernier.
Oui.
Là, elle a 3 ans et demi. Comment ça s'est passé à la cantine? Souvent, on a tendance à dire que des enfants qui mangent pas chez eux mangent bien à la cantine.
Bah, moi, j'attendais avec impatience. Je me disais que l'effet de groupe, ça allait vraiment la porter. Alors, nous, ça a été catastrophique, l'entrée à l'école. Héloïse, elle n'est pas propre, elle ne veut pas y aller. Donc, c'est vraiment une vraie galère depuis le mois de septembre. Et comme elle est très peu intéressée par l'intégration dans le groupe, elle s'isole beaucoup. Donc, la cantine, elle est toute seule. Elle n'aime pas, elle ne mange pas et il ne la force pas.
Donc elle ne mange pas le midi?
Ben, elle mange très peu. Moi, je n'ai pas de visibilité, mais je pense qu'elle mange très peu. Ouais. Quand je lui demande, elle me dit non, je ne vais pas manger.
Ok. Donc c'est vraiment un sujet. Ouais. Qu'en est-il de la piste de trouble de l'oralité? On rappelle que c'est un trouble qui concerne beaucoup d'enfants, notamment des rapports aux textures compliquées, mais aussi au toucher. On sait que c'est des enfants qui, par exemple, détestent marcher pieds nus dans l'herbe. Enfin, c'est un trouble qui est assez vaste. Est-ce que ça la concerne?
Alors, en fait, on s'en est complètement éloigné. C'est vrai qu'on avait dit avec la pédiatre qu'on attendait l'entrée à l'école, qu'on aurait plus de pistes. Et de fait, on s'éloigne complètement de ce diagnostic. Héloïse, c'est une petite fille qui fait du slime, qui touche, qui fait du sable dans le bac à sable, qui fait la cuisine. Elle n'a pas du tout d'autres symptômes évocateurs.
Vous cuisinez ? Vous aimez beaucoup cuisiner ? Vous cuisinez ensemble, toutes les deux ?
Oui, on fait la cuisine, voilà, toutes les trois avec sa sœur. Et vraiment, elle met la main à la pâte. Il n'y a, y a aucun problème pour elle.
Mais derrière, elle ne mange pas ?
Eh ben non, elle ne mange pas ce qu'elle a fait.
Elle ne mange pas ce qu'elle a fait. Ah oui,
non,
ça ne
l'intéresse pas. Pas tellement, non.
Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette situation, ce désintérêt ? Parce que c'est ça le mot, en fait, pour la nourriture.
Oui, alors... Bon, il y avait la piste de la sonde gastrique de la naissance, mais enfin, on discutait avec la pédiatre, on a quand même, ça va, elle devrait quand même s'en remettre un petit peu, c'est pas non plus quelque chose qui a eu des conséquences énormes. Honnêtement, on se l'explique pas, on est arrivé à un point où on est complètement usé par cette situation. Hein.
Aujourd'hui, vous réussissez à rester combative, vous êtes un peu là, vous le racontez avec le sourire, mais est-ce que c'est vraiment, ça vous gâche la vie ?
Alors, ça parasite notre quotidien de manière vraiment très conséquente. Je suis plutôt usée par cette situation. Mmh. Je redoute le moment du repas. Je me dis qu'il va falloir trouver des ressources, en fait, pour lui faire avaler trois bouchées. C'est usant, oui.
C'est usant. Mmh. Et moi, à votre place, je la ferai manger seule et puis je mangerai après avec les autres, non ?
Alors, chez nous, c'est très important, la notion de repas en famille. Et moi, je me dis que si elle n'a pas d'exemple de gens qui mangent autour d'elle,
vous avez raison.
Elle ne va pas être encouragée.
Alexia Chaland-Belval, bonjour.
Bonjour.
On a besoin de vous. On a besoin de vous, de vos conseils. Vous êtes psychologue clinicienne et co-autrice avec Aurélie Grimaud d'Auniveau, qui est psychomotricienne, de ce livre que j'ai entre les mains. Au secours, mon enfant ne mange rien. Ne mange bien, ce serait très fort. On le voit chez Mélanie, l'ambiance tend évidemment à la maison, ça tend tout le monde, les frères et sœurs, les parents, la relation de couple même aussi. Est-ce qu'on peut faire déjà un point sur les pièges à éviter dans ce genre de situation compliquée ?
Oui, alors peut-être juste avant de répondre à cette question, je voudrais dire que je vais répondre à toutes vos questions, mais bien sûr, quand on a le moindre doute, quand on a des inquiétudes, c'est vraiment très important de pouvoir faire le point avec, avec le pédiatre référent de l'enfant, parce que c'est lui qui saura aussi bien guider les parents. Après, le livre, ça accompagne. Quand on a la moindre question, il faut toujours s'adresser à son pédiatre.
Il faut balayer les différents troubles de l'oralité dont on a parlé.
Voilà, exactement.
Donc, une fois qu'on a fait ça, on a balayé tout ça.
Exactement. Il y a effectivement des pièges à éviter. Il y en a, dans le livre, on en a cité 10. Là, je ne vais pas vous citer les 10, ça risquerait d'être un petit peu long. Mais rien que Mélanie, quand on écoute un petit peu ce qu'elle raconte, effectivement, on voit qu'il y a de l'hyperadaptation. Donc, ce qu'on appelle l'hyperadaptation, c'est anticiper les crises. Donc, pour être sûr de ne pas avoir une crise, on met en place des comportements. Donc, on va lui donner ce qu'il aime à manger. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de crise.
Il ne faut repas, pas faire ça.
En fait, le problème, c'est que ça va créer une sélectivité alimentaire qui va augmenter au fur et à mesure. Et donc, ça fait un entonnoir. Et à la fin, on a un panel alimentaire qui est vraiment très réduit.
Donc, mauvaise idée. Okay.
Voilà. ensuite, on a la compensation. Ça paraît, Mélanie en parlait. La compensation, c'est quand un enfant a pas suffisamment mangé à un repas. Et du coup, on va compenser au repas d'après. Donc, si l'enfant a pas suffisamment déjeuné ou n'a pas déjeuné parce qu'il a refusé son repas.
On lui donne pas 5 compotes
Si on lui donne 4-5 compotes, 9 madeleines, forcément, le résultat, c'est qu'il n'a pas faim au dîner. Et donc, du coup, il peut quitter la
donc,
table.
Donc, c'est Mélanie qui a raison et pas son mari. Monsieur, je suis désolée.
Voilà.
Si vous avez déconné.
Donc ça, c'est vraiment un piège qui est classique parce que c'est tellement difficile d'avoir son enfant qui a le ventre vide et un enfant qui dit j'ai faim, c'est dur de ne pas répondre quand même en tant que parent à ça. Et donc on a tendance à compenser, mais on n'a pas faim après.
La distraction aussi, il faut éviter. Donc Star Wars.
On l'a tout fait. Hein. Moi aussi, j'ai fait avec mes enfants, évidemment. Après, ce qu'il y a, c'est que si c'est la condition pour manger, et tous ces pièges, c'est toujours la même chose, c'est que si la condition pour manger, c'est de mettre en place ça, ça trouve très vite ses limites. Effectivement, on a vu des parents qui se mettent à faire des spectacles, et puis, alors ce qu'on appelle la distraction, ça va être effectivement les spectacles des parents, ça va être je fais l'avion, bon, à la limite, ça passe encore. Et surtout, ça va être les écrans, où du coup, l'enfant, il se met à manger de manière complètement mécanique, il n'est pas du tout à ce qu'il est en train de faire. Donc, il ouvre la bouche, il regarde autre chose, et il n'est pas du tout conscient qu'il est en train de manger, quoi. Donc ça, gros piège.
C'est un sujet qui suscite beaucoup de réactions, beaucoup de questions de nos téléspectateurs. On en a reçu notamment en vidéo d'Alison. Regardez.
Bonjour la maison des maternelles. Alors moi, j'aimerais savoir comment faire la différence entre un enfant très sélectif et un trouble de l'oralité. Merci.
C'est la question.
C'est ma question. Alors, peut-être pour commencer, on peut définir ce que c'est un trouble de l'oralité, parce que c'est effectivement des mots qu'on entend souvent. Nous, en consultation, on voit des parents qui arrivent avec déjà ce diagnostic qui est fait. Alors, en France, on parle de moins en moins de troubles de l'oralité. Aujourd'hui, on parle plus de troubles alimentaires pédiatriques, pardon, et qui inclut dedans aussi des troubles qui sont un peu... Voilà. Ce qu'on appelait avant les troubles de l'oralité, ça va être les troubles alimentaires pédiatriques qui vont être sévères. Et puis, on va avoir des troubles un peu plus modérés.
On peut dire hypersensibilité de la bouche.
Et alors, c'est, du coup, la définition, effectivement, ça va être une hypersensibilité de la bouche, mais en fait, pas que de la bouche. On se rend compte que les enfants qui ont des troubles sévères, ils se retrouvent à ne pas supporter d'avoir les mains sales. Donc, dès que c'est un peu sale, ils se nettoient. Dès que la bouche est sale, ils se nettoient. Ils n'aiment pas du tout être pieds nus. Mm-hmm. C'est des enfants qui vont lever les pieds quand vous les mettez sur l'herbe ou sur le sable. Voilà, donc, le toucher n'est pas du tout quelque chose d'agréable, et pas que dans la bouche. Donc, la sélectivité alimentaire, effectivement, ça rentre dedans. Après, on a beaucoup d'enfants qui ont une sélectivité alimentaire, mais qui ne présentent pas de troubles sévères, parce qu'en plus de cette hypersensibilité, on va avoir des enfants où, si on leur met, et ça, je l'ai vu en consultation, on leur met une miette d'un aliment dans la bouche, et ils ont un haut-le-cœur immédiatement. Et c'est des enfants qui, vous leur rapprochez l'aliment de la bouche, ils détournent.
On n'est pas sur du caprice du tout, là.
Là, non, on est vraiment sur... c'est une vraie pathologie, quoi. Et d'ailleurs, les parents qu'on voit en consultation, souvent, ils ont un petit peu honte quand ils arrivent en nous racontant, parce que finalement, leur enfant, il est rarement maigre. En général, ils sont bien portants, parce qu'il y a beaucoup de compensations aussi. Et du coup, ils disent, en fait, il n'est pas vraiment malade, mais à la fois, c'est la galère à la maison. Ça embolise du temps, de l'énergie. Donc, c'est trop compliqué dans le quotidien, donc on a besoin d'aide. Et effectivement, ses parents ont besoin d'aide. Et donc, la sélectivité alimentaire, il faut essayer au maximum de pas être rentré dedans, parce que le panel alimentaire, en fait, ne fait que...
Et après, on mange plus des gnocchis et du chou-fleur, ça ne va pas.
Mais c'est pas facile, quand même. Voilà. C'est pas facile pour eux, parce que...
Mais si, Yasmine, c'est facile, arrêtez d'en faire tout.
Je vous présente Véronique Leblanc, qui est spécialiste de l'oralité aussi, elle parle de l'aliment copain. L'aliment copain, c'est, en fait, se familiariser avec les aliments. Et donc, plus on a des présentations de l'aliment, plus on va le connaître, moins on en aura peur ou des appréhensions, et plus on va pouvoir tenter des expériences. Donc, la présentation des aliments, elle est indispensable.
Alors, en parlant d'aliments copains, regardez, c'est Cécile qui a une question en vidéo pour vous.
Ma fille Enora, qui a 8 ans, est de plus en plus sélective au niveau de la nourriture. Donc, ma question était, pour une enfant comme ça, qui ne mange, on va dire, que des pâtes ou des frites, quasiment, est-ce que l'on doit continuer, on va dire, les négociations à table, parce que ça dure depuis longtemps, ou alors, est-ce qu'on doit laisser tomber, et puis tant pis, au moins, elle mange quelque chose. Merci.
Ne jamais laisser tomber. si on laisse tomber, en fait, le problème, c'est qu'on ne permet pas à l'enfant de développer des compétences dans sa bouche, parce que souvent, les aliments qui sont appréciés par les petits qui ont ces difficultés, c'est des aliments qui fondent dans la bouche, qui sont très faciles à mastiquer. Et en fait, pour pouvoir après manger varié, il faut avoir des muscles dans la bouche. Et pour avoir des muscles dans la bouche, il faut se servir de sa bouche. Voilà, exactement. Donc, manger des carottes, c'est plus dur, enfin, des carottes crues, c'est plus dur que de manger des pâtes ou des gnocchis. Exactement.
Paula qui vous dit « J'aimerais faire en sorte que mon fils de 3 ans soit plus intéressé par l'alimentation. Avez-vous quelques conseils d'activité à lui proposer ?»
Alors oui, alors, il y en a plein dans le livre. Tout à la fin du livre, on a un petit livret qui est adressé aux enfants où on a 10 semaines de défis avec que des défis sensoriels où il faut toucher, goûter et puis des défis un peu plus créatifs à choisir avec les parents du coup. Et en fait, ça permet de détourner un petit peu le sujet et de ne pas toujours être dans des expérimentations à table, mais aussi en dehors. Mm-hmm. Et du coup, on a des activités qui sont toutes simples. Hein. La pâte à modeler, par exemple, ça fait partie des activités qu'on peut faire avec les enfants où il y en a qui ont beaucoup de difficultés à le faire. Donc là, ça peut être faire de la pâte à sel. Enfin, il y a toutes les choses où on peu patouiller, cuisiner, génial. La cuisine, c'est... Mais sans avoir pour objectif absolument qu'il mange ce qu'il a cuisiné avec vous. On est en général assez déçus quand il ne mange pas ce qu'on a préparé ensemble.
Mais se oui, dire faut que c'est... Il cuisine, mais il ne mange pas.
Ben voilà, c'est non, assez classique. Mais en fait, le moment où on cuisine, ça va être des moments où on va toucher, on va expérimenter. Quand maman aura la tête tournée, hop, on va goûter. Et du coup, c'est des moments où il y a beaucoup d'expériences sensorielles qui se font. Donc ça, c'est vraiment une des activités les plus
chouettes. Soit ludique, faut que ce soit sympa.
Exactement.
Il y a toucher, goûter, créer. On peut avoir un point, deux points ou trois points en fonction de la jusqu'où on va. Donc un point, mets ton doigt dans une eau pétillante et bois-la. Ok, c'est rigolo. Deuxième point, goûte un smoothie tropical. Troisième point, lèche du vinaigre balsamique. Trois points, oui, faut tester. C'est le fort moyen, oui, c'est ça.
Et comme c'est sous forme de jeu et sous forme de défi, du coup, les enfants, ils sont vraiment très preneurs. Ouais. Ça, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on avait fait en consultation avec Aurélie Grimaud-Donizio, avec qui j'ai écrit le livre. Voilà, on leur a fait écraser des tomates en consultation, se sauter à pieds joints sur des tomates. Enfin, on a fait des choses assez rigolotes où, en fait, eux, ils allaient à fond, avec parfois un peu d'appréhension au début, et puis finalement, ils expérimentent. Il y a un autre outil aussi qui est dans le livre, qui est la pieuvre.
Ah,
exactement.
La pieuvre
qui est trop mignonne. En fait, l'idée, c'est de se dire que, finalement, quand on fait la liste des aliments qui sont mangés, on voit parfois que, finalement, la liste n'est pas si courte et qu'il y a quand même... parfois plus de choses que ce qu'on imaginait. Et ensuite, pour se dire, on va ajouter un nouvel aliment, on décide avec l'enfant. Et du coup, dans la pieuvre, on voit en haut, il y a un petit encadré où on peut marquer le nom de l'aliment. On peut utiliser une pieuvre par semaine, une pieuvre pour 15 jours, enfin, à adapter en fonction des compétences de l'enfant. Ça, c'est vraiment important d'aller à son rythme. Et quand l'enfant a réussi à manger un nouvel aliment, à vraiment l'expérimenter, pas forcément l'avaler, mais en tout cas le croquer et le recracher, parce qu'il faut les laisser faire le fait de recracher. Déjà, il y a des choses qu'on a expérimentées dans la bouche. Et si jamais il a réussi à faire ça, il a le droit de colorier une des tentacules de la pieuvre. Et si jamais il a avalé, il a le droit de colorier un des instruments qu'a la petite pieuvre, son chapeau ou ses cuillères. Voilà, donc ça, ça peut être un outil ludique et utile pour les parents.
Émilie nous demande, est-ce que la sensation de faim peut ne jamais se développer chez un enfant ?
Alors, je pense que non. J'en ai reparlé avec un gastropédiatre qui a écrit aussi dans le livre avec nous. La sensation de faim, en fait, souvent, elle n'est pas là quand on vient un petit peu plus tôt que prévu proposer à l'enfant de manger. En général, du coup, c'est un peu la compensation et du coup, l'enfant n'a pas forcément faim. Mais tout à l'heure, Mélanie nous disait qu'aujourd'hui, sa fille, elle a faim à la sortie de l'école parce qu'elle ne mange rien du tout à la cantine et elle a faim alors qu'elle n'avait jamais manifesté cette faim à ce point-là. Donc, on voit bien que finalement, cette sensation de faim, elle existe.
Pia vous dit, ma fille refuse tous les aliments de couleur orange, elle ne les goûte même pas. Est-ce que je peux colorer ces aliments avec un colorant alimentaire pour qu'elle les teste ?
Alors, pour moi, ça, c'est ce qu'on appelle la tromperie. Et donc, ça fait partie des pièges, justement, à éviter. Le problème de la tromperie, c'est qu'après, l'enfant, il ne fait plus confiance. Donc, sur un aliment où voilà, on refuse l'orange, on va prendre une orange avec l'enfant, on va jouer avec sans l'ouvrir. On peut jouer à la faire rouler. Et voilà, le lendemain, on joue à l'ouvrir, à avoir commencé à l'intérieur, on touche, on met le doigt dedans, on fait un gros doigt. En passant par des jeux comme ça. Et puis, on peut aussi lui donner des petits morceaux. Ça, c'est une technique qui est quand même assez utile aussi. C'est de lui présenter vraiment des tout petits morceaux, pas plus gros qu'une miette, et dire, voilà, déjà fait une expérience avec cette petite taille. Et puis, on va essayer d'augmenter au fur et à mesure. Et donc, on a quand même beaucoup moins peur d'aller sur un tout petit morceau que quand on vous enfourche quelque chose dans la bouche. Voilà.
Et par exemple, faire des chips de carottes, c'est pas une tromperie.
C'est pas de la
tromperie. Mais ça reste des chips, donc c'est un peu sympa.
Et donc c'est un peu plus attractif. Ouais. Et donc, du coup, c'est un moyen qui est très efficace.
Ou un bonbon orange, ça, vous n'allez pas aimer ça.
Si, très bien.
Si, ça sent peu.
Si.
Une glace orange.
Mais c'est très bien.
On va tout faire, là,
franchement. Un haut orange, comme celui d'Yasmine ? Non ? Ouais, rien à voir. Là, on peut s'amuser, quoi. On peut tester par
la tromperie, c'est faire croire que c'est autre chose.
Oui.
Donc, et le colorant alimentaire, on fait croire que c'est
autre chose. Après, il y a des carottes violettes. Sans les...
mais ça ne résoudra pas le problème de l'orange.
Non, j'ai compris, mais attendez, laissez-moi.
C'est l'orange, c'est pas le vert.
Laissez-moi tranquille, j'essaie de trouver des solutions. Moi.
Merci. J'ai un livre. Ma fille de 2 ans a toujours été sélective depuis la diversification. Comment la convaincre de tester de nouveaux goûts, de nouvelles textures, nous demande Canel.
Encore cette question des tailles. Alors, il y a deux solutions qui sont assez efficaces. Il y a cette question des tailles où, en fait, on commence par une miette et puis après, on essaie d'augmenter au fur et à mesure un peu le diamètre des aliments qu'on propose. Et si à un moment, l'enfant dit non, moi, je peux pas, c'est trop gros.
Il faut respecter ça quand
on,
il dit.
Voilà, sinon, en fait, le problème, c'est soit on va le braquer, soit il va avoir un haut-le-cœur, parce que les enfants qu'on a vus en consultation et à qui s'adresse ce livre, ils ont aussi des haut-le-cœur. Quand c'est trop gros, quand ils sont trop écœurés, donc en fait, il faut s'arrêter. Mais en général, quand on propose des plus petits morceaux, le haut-le-cœur, il n'arrive pas. Yes. Et après, sinon, il y a d'autres solutions. Par exemple, la pomme ou certains aliments, on peut prendre un épluche-légume et en faire une lamelle toute fine. Et du coup, le goût, il est quand même beaucoup moins fort. On n'a pas besoin d'avoir cette mastication. Et pourtant, il y a quand même une expérience qui vient se faire et des sensations en bouche et des nouvelles textures. Donc ça peut être un moyen aussi assez efficace.
De varier aussi la forme.
Valentine vous demande s'il y a des âges ou des périodes où l'alimentation est de manière générale plus compliquée pour les enfants.
L'entrée dans la période du non, c'est vraiment c'est vraiment la période où ça devient le plus difficile et aussi l'entrée des morceaux. Quand on commence à intégrer les morceaux, très souvent, il y a des enfants qui recrachent. Et alors, du coup, ça aussi, c'est un des pièges un petit peu, puisque qu'on a dans le commerce, les petits pots pour les enfants de plus de 18 mois, c'est des purées avec des morceaux dedans. Mmh. Et donc, on a deux textures qui sont mélangées. Et pour,
ça, on n'aime pas.
Et en fait, souvent, il y a beaucoup d'enfants qui recrachent tous les morceaux. Et parce que les deux textures mélangées demandent deux compétences différentes. Quand on a quelque chose d'un peu liquide dans la bouche, on utilise sa langue et qu'on colle au palais. Alors que quand on a un morceau, on a besoin de le promener dans sa bouche pour aller utiliser les dents et mastiquer. Et donc, les deux compétences en même temps, c'est difficile. Donc, du coup, il vaut mieux, dans l'assiette, séparer les aliments et avoir d'un côté les morceaux et de l'autre côté d'autres textures.
Purée, Alors, les repas, avec mon fils de 6 ans sont tendus. Il n'aime peu de choses et du jour au lendemain, il peut refuser un légume qu'il adorait jusque-là. Est-ce qu'il ne risque pas de plus rien manger du tout à force de changer un petit peu d'avis comme de chemise ?
Moi, je pense qu'il faut continuer à proposer, même s'il refuse, c'est au moins lui présenter dans son assiette. Et il y a beaucoup d'enfants qui finissent par y retourner. Et ça fait aussi partie de l'opposition. Dès qu'on voit qu'il y a des enjeux un petit peu qui vont se faire là, que ça crée de l'attention, l'attention, ça crée aussi de la relation.
Oui, c'est ça.
Et donc, il se passe quelque chose. Et puis, c'est un bon moyen aussi d'embêter
les parents.
Les parents. Donc, du coup, on...
Rester calme et patient de manière permanente.
Exactement. Et surtout, toujours continuer à présenter. Je dis présenter, pas proposer, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Justement. Vita nous dit « Excédé, il nous arrive de faire du chantage face au refus de notre enfant devant ses assiettes pleines. Pire, de le mettre au coin. Les repas deviennent un moment que je redoute quelle issue ?» Donc les tensions, chez eux, elles y sont. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là?
Les tensions, il faut essayer au maximum de montrer à l'enfant que pour nous, en fait, c'est pas grave. S'il n'a pas mangé, il n'a pas mangé. En fait, on lui propose des aliments. Et ce qu'il y a, c'est que En général, les enfants, quand on les voit comme ça, les parents nous disent « j'ai tout essayé, j'ai essayé de ne pas lui donner ». Et en général, ils ont essayé une ou deux fois. Et c'est rare qu'ils essaient pendant plusieurs jours de suite. Et souvent, quand on essaie 3 jours de suite d'être vraiment ferme, ça passe.
Pardon, j'ai pas compris. Du coup, c'est 3 jours de suite des aliments différents.
De suite, on lui présente les aliments et en fait, on lui présente la même. Il a 6 ans, donc la même chose que tout le monde à table. Et s'il refuse, le repas s'arrête. En fait, il va avoir faim, donc au goûter, on lui donnera la même chose et puis que d'habitude.
En fait, on passe 3 jours difficiles.
Exactement.
Mais au bout de 3 jours.
En général, les parents trouvent ça quand même éprouvant parce que c'est culpabilisant de le faire, mais en général, ça se débloque quand même en partie. Après, il faut se faire accompagner aussi.
Il ne faut pas rentrer dans quelque chose où on ferait 5 menus parce qu'il y a 5 personnes à table. On propose la même chose, on reste. C'est comme ça.
Exactement.
On est pour resto. Ouais. Alors, mon fils a beaucoup de mal avec les biberons. Non, mais je visualise très bien chez moi. Cela peut-il changer et s'arranger avec la diversification alimentaire? Il y a des enfants qui sont plus dégoûtés que les autres des biberons, ou lassés en tout cas?
Ce qu'il y a, c'est que c'est deux compétences quand même assez différentes de boire et de manger. Donc, c'est pas parce que c'est difficile le biberon que ce sera forcément difficile. Après, je pense que le positionnement parental, il est vraiment important. On va avoir des parents qui vont ne cesser de proposer le biberon jusqu'à ce qu'il soit suffisamment entamé. Et je pense qu'il vaut mieux se dire, en fait, s'il refuse, on s'arrête. Même sans passer par là, en fait, c'est de se dire, on attend qu'il réclame. Et puis, quelques heures plus tard, on peut différer quand même et pas proposer. En fait, on m'a dit que c'était toutes les 3 heures, toutes les 4 heures. Peut-être qu'il faut attendre un petit peu. Il y a des jours, on a moins faim aussi.
Écoute son enfant.
Voilà.
Voilà. Merci Alexia Chalandelval, merci Mélanie, merci à toutes les deux d'être venues dans la maison des maternelles, cette formidable émission de France Télévisions. Voilà, c'est la fin de cet épisode, on se retrouve demain, France 2, France.tv, réseaux sociaux, Twitter, hashtag of podcast, TikTok, Minitel, 3615, code les maternelles. Salut tout le monde!